Bonjour à tous, aujourd'hui encore un épisode hors série. Celui-ci est lié à ma récente interview par Jean-Michel Abrassard, l'hôte du podcast Scepticisme Scientifique. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, honte à vous, il s'agit d'un podcast très intéressant dans lequel Jean-Michel Abrassard aborde, avec ses invités et Nicolas Gauvry, divers sujets du domaine de la zététique ou du scepticisme scientifique et où il cherche à démystifier certains sujets comme le paranormal, l'ufologie, la cryptozoologie, l'usage des statistiques pour nous faire avaler tout et n'importe quoi et bien d'autres. Enfin, tout ce qu'il faut pour qui souhaite avoir une information raisonnée sur la science. J'espère en tout cas que je ne trahis pas l'esprit du balado. J'ai donc eu la chance d'être interviewé par Jean-Michel Abrassard à propos de Lisez la science pour l'épisode 255, que vous pourrez trouver sur son site dans sa version originale. Et sans plus tergiverser, l'épisode.
Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison, épisode 255. Aujourd'hui, nous allons parler d'un nouveau podcast qui s'appelle Lisez la science. Et donc, j'ai son hôte avec moi, David Loureiro. Bonjour.
Bonjour Jean-Michel.
Et voilà, donc tu as commencé il y a quelques temps déjà un nouveau podcast consacré au livre scientifique, mais enfin ça tu vas nous l'expliquer. Mais c'est vrai que la raison pour laquelle j'ai finalement quand même décidé de t'inviter, c'était parce que tu as fait un épisode sur l'ouvrage de Pracontel, qui est un ouvrage extrêmement sceptique. Alors je me suis dit, ah, s'il commence à parler de scepticisme, il faut vraiment que je l'invite alors. mais avant qu'on parle de ton podcast, est-ce que tu peux un peu te présenter?
Donc moi j'ai une formation en mathématiques appliquées, j'ai un diplôme d'ingénieur en mathématiques appliquées que j'ai pas exploité très longtemps en fait parce que j'ai pas fait de mathématiques appliquées en fait dans ma vie professionnelle. J'ai commencé à travailler pour l'INRIA, je sais pas si tu vois de quoi il s'agit. C'est un institut de recherche en informatique et automatique en France. Et donc à faire de l'informatique. Et puis finalement, après 2 ans dans cet institut de recherche, j'ai créé une société avec les deux personnes qui m'avaient recruté dans cette équipe de recherche. Et donc ça fait maintenant 4 ans que je dirige une entreprise dans l'informatique. Donc finalement, assez peu de mathématiques appliquées. C'est peut-être ça d'ailleurs qui m'a donné envie peut-être de lire des livres de science finalement.
Il y a beaucoup de gens qui ont des compétences en informatique qui font des podcasts. Hein.
Ça aide un peu, oui.
Ouais, je suis un peu l'exception à la règle et je rame comme un fou parce que je suis nul en tout ce qui est programme. Enfin, je veux dire, même, c'est même pas d'informatique, mais vraiment juste même les sites web et tout ça, c'est vraiment pas mon truc. Mais c'est vrai que généralement, tous les gens qui font des podcasts, hein, c'est des gars qui sont très computer geek comme ça. Et alors, qu'est-ce qui t'a décidé de te lancer dans l'aventure folle d'un podcast?
Alors, il y a un peu plus d'un an, en août de l'année dernière, j'avais besoin de trouver des trucs à écouter dans les trajets que je faisais, et je me suis dit, bah pourquoi pas écouter des podcasts. Donc, je suis tombé sur les incontournables de la podcastosphère scientifique francophone, donc le tien, celui de Podcast Science, quelques podcasts de France Inter, France Culture et consorts. Et puis finalement, c'est d'écouter ça, puis après j'ai eu l'occasion de participer, de faire 2 épisodes pour Podcast Science. Et je pense le dernier trimestre 2013, je me suis mis à relire un peu de livres scientifiques parce que je sentais que ça faisait longtemps que je n'avais pas fait, ça m'intéressait de m'y remettre un petit peu, de prendre le temps de sortir aussi un peu la tête du métier d'entrepreneur et puis au détour d'une discussion avec Nico Tube de Podcast Science, on s'est dit pourquoi pas essayer de monter un podcast là-dessus. On lisait pas mal tous les deux de livres de science. J'avais peut-être un peu plus de temps que lui à l'époque pour me lancer, et puis je l'ai fait et c'est comme ça que ça s'est fait, je dirais, assez assez simplement, en fait, hein, finalement.
Oui, donc c'est vrai que t'as un concept assez sympa qui est justement un peu un livre, un auteur, un épisode comme ça. Est-ce que tu peux décrire juste pour les gens qui n'ont pas encore écouté ton podcast en quoi ça consiste?
L'idée, c'est que, enfin, je pense que tu en as parlé aussi sur tout un tas de tes épisodes, mais on a une vision assez biaisée, j'ai l'impression, de la science dans les médias. Et finalement, enfin, les revues de bouquins qui sont faites, enfin, dans les médias à chaque fois, pas forcément sur les livres de science, mais de manière générale, j'ai l'impression que c'est toujours des choses qui, les derniers trucs qui sortent, voilà, ce qui fait le buzz, etc. Mais bon, enfin, il y a des livres qui sont bien. Enfin, je veux dire, celui de Pracontal, typiquement, c'est un livre qui date pas d'hier, mais pourtant il reste très actuel. Et il est intéressant à lire. Il n'y a pas besoin de toujours lire le dernier livre qui sort. Et j'avais envie d'en lire et puis de partager aussi un petit peu ce que j'ai ressenti, enfin ce que j'ai apprécié dans ces livres-là, parce que j'essaye de me concentrer uniquement sur ceux que j'apprécie pour l'instant. Et de présenter l'auteur, parce que des fois aussi, c'est intéressant de voir un peu le chemin qu'ont fait les auteurs, leur parcours, et pour la plupart de ceux que j'ai eu l'occasion de présenter sur le podcast des auteurs finalement, enfin je veux dire James Gleick par exemple, ou le prochain que je souhaiterais faire, Stephen Jay Gould, c'est des gens qui sont importants aussi dans le monde scientifique, pas uniquement par ce qu'ils ont pu amener à la science en elle-même, mais par l'aspect vulgarisation. Donc de présenter comme ça l'auteur, et puis le livre, d'expliquer un peu ce que j'ai retenu. Alors, je prétends pas être quelqu'un qui fait de la revue littéraire non plus, ou d'être un fondu de la science que je présente, mais voilà, de présenter un peu ça, d'essayer de donner envie de lire des livres, et c'est pour ça qu'après j'essaye d'ouvrir aussi sur un livre qui a rien à voir. Alors ça peut être de la science-fiction, ça peut être d'autres livres de liés à la science, et puis ensuite un livre que j'aimerais bien lire. Où là c'est des livres que des fois j'arrive à lire, parce que typiquement le livre de Pracontal, c'est un livre que je voulais lire, que j'ai lu et que j'ai revu. Et puis voilà, sans trop se prendre la tête, j'ai pas voulu faire ça trop long non plus, parce que bah, c'est mine de rien, ça me prend déjà beaucoup de temps. Et puis il faut que ça soit, enfin je sais pas, je pensais qu'un format comme ça d'une quinzaine de minutes, ça pouvait vite se consommer, quoi.
Oui, c'est un chouette petit format comme ça, mais évidemment, c'est vrai que ça doit prendre du temps, parce que tu dois lire le livre, et puis rédiger. Je crois que tu rédiges quand même à chaque fois le texte que tu lis, quoi,
Oui,
donc ça.
tout le temps, oui. Oui, parce qu'après, ça peut être retrouvé sur le site du podcast. Et puis, mine de rien, il y a certains auteurs où c'est pas forcément très évident d'arriver à trouver des informations. Par exemple, j'avais fait la revue d'un livre sur les lasers de deux scientifiques français. Bah, c'est pas Pracontal ou Gleick, donc c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Il y a un peu plus de travail pour arriver à trouver des informations sur les personnes, mais. Mais c'est intéressant parce qu'on découvre des choses que enfin moi je découvre des choses que je savais pas, quoi, enfin, sur la vie des personnes. Et puis des fois en fait, enfin typiquement Pracontal, j'ai découvert quelques polémiques autour de son livre ou des choses comme ça, j'imaginais pas, donc c'est intéressant, c'est intéressant.
Oui, ok. Ça m'intrigue. Quel genre de polémique as-tu découvert autour de son
Bah en
livre?
fait, en cherchant des informations sur l'auteur, sur le livre, etc., je suis tombé sur une page de quelqu'un que tu connais, parce que tu as fait un épisode il n'y a pas longtemps dessus, d'Henri Brock, où il revenait sur, je crois que c'était sur le traitement que Michel de Pracontal avait fait dans la première version de son livre de La mémoire de l'eau. Et donc, enfin voilà, c'est bon, je connais pas assez pour arriver à me faire un avis, je dirais, tranché sur qui a raison, qui a tort, mais enfin ça donne une certaine lumière sur le livre, parce que c'est vrai que c'est un livre qui est assez, enfin celui de Michel de Pracontal, la plupart des gens avec qui j'en ai parlé étaient comment dire, fous de ce bouquin, et vraiment très, enfin pro ce qu'il disait, quoi. Et c'est intéressant de.
Oui, donc je crois qu'on n'a pas dit le titre, mais donc c'est évidemment. Je pense que la plupart des auditeurs le connaîtront de toute façon. Enfin, c'est pour le dire, c'est L'imposture scientifique, on dit le son, qui date de 2001, aux éditions La Découverte. Oui, c'est vrai que C'est ce que, enfin, c'était probablement un des premiers livres que j'ai lu sur le mouvement sceptique en 2001. Il avait quand même le mérite de couvrir beaucoup de choses, beaucoup sur la littérature sceptique à une époque où justement il y avait pratiquement que Brock qui avait fait des choses avant lui, quoi. Donc ouais, enfin, je pense effectivement que c'est certainement un livre qui doit couvrir pas mal de choses qui sont encore d'actualité, comme tu dis, évidemment. Moi, je l'ai lu à l'époque, donc évidemment, c'est pas très frais dans mon esprit, mais je me souviens qu'il parlait de pas mal de choses vraiment intéressantes. Finalement, tu as collaboré, enfin, tu collabores un peu avec la bande de Podcast Science. Comment ça se passe de ce côté-là? Parce que tu parlais de Nicotube, mais finalement, tu fais le podcast tout seul quand même, non?
Ah oui, actuellement je vais tout seul parce que lui a pas le temps de s'y impliquer. Et puis bon bah finalement j'ai lancé ça, donc pour l'instant je m'en occupe tout seul. Ouais. Bah en fait j'ai mangé pas mal de leurs épisodes. Enfin je pense que je les ai tous écoutés. Je pense que j'ai écouté tous leurs épisodes. Et puis quand j'arrive à participer au live, j'écoute et puis j'avais profité une fois d'un échange après un épisode. Je crois que c'était après l'épisode d'Alexandre Moati, on avait discuté un peu avec l'équipe, et puis je leur ai proposé, si ça les intéressait, de faire des épisodes sur la simulation numérique, parce que finalement c'est quelque chose que, par formation entre guillemets, je connaissais bien, donc j'ai fait deux épisodes là-dessus. Et puis cet été, je les ai aidés à monter l'épisode qu'ils ont fait de la soirée avec la soirée radio dessinée au CERN. Et puis voilà, mais enfin c'est à dire c'est quand il y a besoin, mais j'ai l'impression qu'ils arrivent bien, ils tournent bien quoi.
Depuis le temps qu'ils font ça, je crois que oui,
Ouais.
effectivement. Ouais. Et tu comptes faire un épisode à quelle régularité, plus ou moins?
Alors ça c'est une grande question. Au départ, j'essayais d'en faire toutes les 2 semaines. Donc je suis arrivé à tenir ça les 2, 3, 4 premiers épisodes. Et puis ensuite, l'été venant, et puis on va dire les occupations plus personnelles prenant du temps, ça s'est un peu étiré en longueur. Là, je suis en train d'écrire le prochain que je veux faire sur Quand les poules auront des dents de Stephen Jay Gould. Et puis j'espère pouvoir le sortir d'ici une semaine ou deux, avec un peu de chance. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est je me posais pas tant de questions au départ sur les livres que je lisais. Et puis quand j'ai commencé à lire celui de Stephen Jay Gould et encore plus celui de Michel de Pracontal, ça me fait quand même pas mal réfléchir maintenant en fait aux livres et aux auteurs dont je fais des revues dans le podcast, parce que typiquement le prochain ce que je veux faire après celui de Stephen Jay Gould, j'aimerais le faire sur Désir d'infini de Trinh Xuân Toan. Et écouter certains de tes épisodes m'a fait un peu réfléchir. Donc voilà, je me pose pas mal de questions en fait sur les livres que je peux aborder ou comment est-ce qu'il faut que je les aborde. Enfin,
Oui, j'avais un peu réagi, c'est comme ça, quand j'écoutais ton épisode sur Michel de Pracontal, tu avais mentionné que tu voulais couvrir son livre, enfin, cet auteur-là, et je me suis dit, ah tiens, c'est vrai que ouais, c'est l'intérêt, enfin, je trouve que c'est intéressant de couvrir les livres de vulgarisation, mais c'est vrai que c'est un peu, ça peut être intéressant de voir comment tu le fais aussi, quoi, et c'est vrai qu'il y a, voilà, pour prendre un exemple un peu plus caricatural, tu as toujours les bouquins des Bogdanov et tout ça, tu vois.
Ouais, bon, ouais.
Enfin, la question, c'est de voir est-ce que tu ne traites que des livres que tu estimes être des bons livres de vulgarisation ou est-ce que tu traites d'autres livres? Enfin, il y a toujours.
Ben, c'est pour ça que je disais qu'au départ, on va dire là, ce que je voulais avoir, c'était au moins les livres qui me plaisent d'une certaine manière. Mais c'est compliqué parce que, typiquement, enfin, il y a pas très. J'ai fait un épisode sur. C'est le beau livre de la médecine de Clifford Pickover. Et Clifford Pickover, c'est un auteur américain. Alors, ce qu'il fait, c'est qu'il retrace, on va dire, l'histoire de la médecine depuis les âges sombres, entre guillemets, jusqu'à la médecine récente. Et en fait, à ce moment-là, il se met à parler des chiropracteurs. Et moi, j'ai un peu tiqué quand même parce que, bon, je pas sûr que ça soit vraiment de la médecine, ou tout du moins de la médecine classique, quoi. Et donc il le dit plus ou moins, mais en même temps, il classe ça dans la médecine, quoi. Donc, enfin, j'en ai parlé, mais c'est vrai que je me demande dans quelle mesure est-ce que, c'est la vulgarisation, et ça fait beaucoup de poser de questions sur la vision que les gens donnent de la science quand ils vulgarisent, parce que finalement, quand on lit le livre, on ne sait pas quelles sont les positions de l'auteur quand on est, je veux dire, pas scientifique, ou tout du moins pas au fait du domaine dans lequel se trouve le livre de vulgarisation en question. Et apprendre ça pour argent comptant, finalement, on peut considérer tout ce qui vient comme voilà, de la science pure, quoi. Mais bon, enfin, je vais pas t'apprendre ça, mais c'est compliqué quand les auteurs ont un certain parti pris, quoi. Et c'est notamment la question avec le livre de Trinh Xuân Toan, parce qu'il est très pro principe anthropique, et moi pas trop. Et c'est vrai que alors j'ai l'impression qu'il arrive à peu près à faire le distinguo, mais dans son livre, on voit bien quand il en parle, et quand il parle de choses plus, entre guillemets, plus classiques, mais finalement, enfin, je veux dire, les gens qui, je pense, lisent des livres de vulgarisation ont envie d'en savoir plus, et je sais pas si quand on n'est pas forcément un mordu de science, si on arrive à faire vraiment le distinguo entre ce qui est de la position de l'auteur et ce qui ne l'est pas, quoi.
Ouais, je pense que c'est là aussi que ton podcast peut être intéressant. Je veux dire, tu peux jeter un éclairage, mettre un peu les choses en contexte, quoi. C'est vrai que mais ce que tu dis là, de toute façon, c'est même pas. Enfin, ça peut être vrai pour des auteurs qu'on aime beaucoup, hein. Je veux dire, dans le mouvement sceptique, par exemple. Neil deGrasse Tyson dans Cosmos, le nouveau Cosmos. Alors le nouveau Cosmos est super, mais il y a quand même eu pas mal de débats parce que dans le premier épisode, il présente l'histoire avec Galilée. C'est pas Galilée, c'est avec Giordano Bruno. C'est Giordano Bruno qui parle. Et il y a eu des débats sur. C'est toujours des débats d'historiens. Est-ce que pour faire le narratif du grand conflit entre la science et la religion à coup de Giordano Bruno. Correspond à une réalité historique. Ouais, même chez les auteurs qu'on aime bien, y a souvent des choses sur lesquelles on peut tiquer, quoi. C'est vrai
Ouais.
que.
Bah, typiquement, j'ai lu Denialisme, et en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est Michael Spector. L'auteur est américain, et ça se ressent dans certaines des positions, en fait, j'ai l'impression, bon, c'est normal, hein. Mais à un moment, par exemple, il parle d'un mouvement qu'il y a aux États-Unis, de gens qui boivent du lait cru. Et donc il se révolte contre ça, parce qu'il explique, voilà, qu'on a vu plus de gens, on va dire, mourir d'infections liées aux bactéries qu'il pourrait avoir dans le lait cru, que de gens mourir à cause de la pasteurisation, ce qui se comprend. Enfin, j'en ai parlé avec des gens de mon entourage, et ce qu'ils me disent, bah ouais, mais il est américain, les Américains, bon voilà, le fromage au lait cru, le lait cru, etc., c'est pas leur truc, donc c'est normal qu'ils aillent contre. Et donc c'est intéressant, cette position, finalement, parce que bon, il y a une certaine véracité scientifique en dessous de tout ça, mais finalement il y a énormément d'aspects culturels qui jouent, enfin notamment en France, avec notre consommation de fromage au lait cru assez importante, entre guillemets. Et tout le monde va être là avec ses anecdotes à dire, bah ouais, mais moi il m'est jamais rien arrivé, alors pourtant j'en mange tous les jours, enfin. Et c'est intéressant, ça, enfin, parce que finalement, enfin, on y réfléchit avec notre vision et notre point de vue culturel. Alors après, on peut se dire, bah ouais, mais finalement, il parle d'études, etc. Bah oui, mais enfin, nous, en tant que simple quidam, les études scientifiques, déjà, il faut y avoir accès. Et finalement, la seule chose qu'on a pour arriver à se faire son propre avis, c'est ce que les gens qu'on écoute en pensent, quoi. Et même à écouter des gens qui vulgarisent, on pourrait s'attendre à ce que ce soit des gens qui vulgarisent en étant le plus rationnel et le plus objectif possible. En fait, on peut pas en être certain, quoi.
Ouais, non, c'est clair, c'est. Voilà, tu prêches à un converti. Ouais, et comme c'est vrai que l'aspect culturel est très intéressant. C'est vrai que les Américains vont, par exemple, sur tous les débats sur la théorie de l'évolution, le créationnisme ont je pense quand même des tonalités différentes chez eux par rapport à chez nous, parce qu'ils sont dans une situation culturelle différente aussi, quoi. Mmh. Donc forcément, bien sûr, il y a des auteurs qui un peu exportent chez nous la manière américaine d'avoir les choses, parce qu'on est très influencé par ce que font les Américains, mais c'est vrai que souvent quand je lis certaines choses, je me dis ouais, c'est vrai qu'il raisonne, enfin il se positionne comme ça parce qu'il est américain, quoi. C'est vrai que c'est c'est ouais. Bon, d'ailleurs, encore récemment, c'est pas vraiment sur la science, mais par exemple Richard Dawkins, enfin les nouveaux athées à la Richard Dawkins ont un peu moins le vent en poupe, et certains analystes disaient que c'était parce que il y a eu un nouveau pape, par exemple, et comme le nouveau pape est un peu moins mauvais que le précédent. Donc même les gens qui font de la vulgarisation athée ont un peu ce problème, c'est-à-dire que, enfin, voilà, quand la culture ambiante influence qui... Si le pape est moins horrible que le précédent, est moins mauvais que le précédent, du coup, directement, la critique athée peut se faire plus conciliante et moins dure. Mmh. Enfin, mais c'est intéressant à analyser, quoi. De voir.
Et ça, tu parlais des créationnistes. En fait, c'est marrant parce que justement, enfin, je crois le premier livre qui parlait de créationnistes que j'ai lu, c'était justement Quand les poulets ont des dents de Stephen Jay Gould. Et en fait, pas très loin de chez moi, il y a un temple de témoins de Jéhovah. Et donc, ça arrivait qu'ils passent chez nous. Et moi, je suis un peu moins patient, on va dire, que ma femme. Alors, c'est vrai qu'ils ont plutôt tendance à parler à ma femme qu'à moi. Et donc, y a une fois où elle leur a dit, bah écoutez, si vous voulez, lisez ce livre-là. Donc elle leur a passé ce livre justement, Quand les poulets ont des dents, en leur disant, bah voilà, je veux dire, c'est un scientifique, quelqu'un qui a priori sait de quoi il parle, ça peut vous donner une idée. Et donc à l'intérieur, il y a l'analyse qu'a fait Stephen Jay Gould de la controverse de Piltdown. Et donc, le livre, ils l'ont gardé un mois à peu près, ils sont revenus ensuite. Et donc justement, moi j'étais toujours pas là, et donc il y avait monsieur et madame qui sont venus et qui ont dit, ah ouais, bon bah on a lu, mais bon, ça me paraît pas forcément évident, mais sinon lisez ce livre, c'est un livre qui était écrit par les créationnistes, et disait en plus on parle de la controverse de Piltdown, et c'est vraiment en accord avec ce que disent les créationnistes. Et enfin, je sais pas s'ils ont vraiment lu ce qui est écrit dans le livre de Stephen Jay Gould, mais et le reste de ce qui est écrit dans le livre de Stephen Jay Gould, mais enfin c'est parce que j'ai commencé un peu à le lire, et en fait c'est marrant parce que typiquement, enfin bon, je t'en ai déjà parlé pas mal sur ton podcast, mais voilà, enfin le dessin intelligent, c'est considéré comme quelque chose de scientifique, etc. Et je pense que c'est de la vulgarisation pour les témoins de Jéhovah, mais c'est pareil. Par exemple, il cite Carl Sagan, il cite Cosmos. Mmh. Mais c'est marrant la façon dont c'est cité, en fait, parce qu'il cite, alors moi j'ai pas lu Cosmos, justement je l'ai acheté, donc faut que je le lise pour me faire mon opinion sur la question, mais il cite un moment où voilà, il explique que l'humanité est vouée à son autodestruction, etc., etc., et il dit bah voilà ce que dit la science, quoi. Alors c'est très orienté, hein, bien sûr, mais après on peut se dire, mais finalement est-ce que alors en étant le plus critique possible, est-ce que Stephen Jay Gould, à sa manière, ne fait pas la même chose finalement? Et c'est compliqué de se faire son propre avis, parce que finalement on peut douter de tout à force, quoi.
Finalement, là, souvent, c'est ça, plus le temps passe, moi j'ai l'impression de savoir des choses ou d'être certain de choses, mais c'est clair. Et par exemple sur Stephen Jay Gould aussi, je pense qu'il, enfin je pourrais me tromper, mais je pense qu'il est quand même largement responsable du fait que les gens aient une opinion tellement négative de la psychologie évolutionniste. Hein. Et alors, si t'as un auteur qui a énormément de retentissement et qui a une opinion très tranchée sur un domaine comme la psychologie évolutionniste, il arrive à influencer vraiment beaucoup de monde massivement, quoi. Alors que si son opinion n'est pas si justifiée que ça, ou dans le cas de Stephen Jay Gould, c'est encore plus compliqué parce que son opinion était peut-être justifiée à l'époque où elle l'a écrit, mais évidemment la discipline a évolué aussi, quoi, hein, donc le temps passe. Mais les gens continuent à lire Stephen Jay Gould et à avoir l'idée, ah ouais, mais si Stephen Jay Gould n'est dit que la psychoévo, c'est du n'importe quoi, c'est que c'est du n'importe quoi. C'est problématique, quoi. Enfin, en tout cas, c'est interpellant, quoi.
Et c'est une des choses que entre guillemets, que j'ai eu quand j'ai lu le livre de Pracontal, c'est que ça, enfin, son livre m'a plongé d'une certaine manière dans une certaine, enfin, je veux dire, ça fait énormément réfléchir sur ce qu'est réellement la science, quoi, et sur la vision qu'on en a, parce que finalement, enfin, je veux dire, comme tu disais, on ne sait plus vraiment ce qui peut être la réalité ou pas, parce que tout est, enfin, pas tout est manipulé, mais tout vient avec un certain prisme qu'on se doit d'arriver à identifier pour arriver à comprendre la réalité de ce qu'on lit, ou tout du moins comment ce qu'on lit a été conçu, ou quel est le but qui gouverne la façon dont ça a été écrit. Et c'est très problématique. Enfin, je veux dire, il y a pas très longtemps, par exemple, je me disais, est-ce que, enfin, j'ai écouté ton épisode sur Wi-Fi et Cresson, et j'ai tapé Wi-Fi antenne relais sur Google. Je suis tombé sur une association, je sais pas si c'est en français, Robin des Toits, ça s'appelle. Donc c'est détonnant. Hein. C'est le Wi-Fi, c'est mal. Les antennes relais, ça tue nos enfants, ça leur donne le cancer. Je suis allé sur un article où ils expliquaient que il y avait des études qui avaient été faites qui prouvaient qu'il y avait eu un impact, que voilà, ça a été prouvé que le Wi-Fi a un impact. Je me suis dit, bon, okay, j'en ai pas entendu parler, mais on va regarder. Et donc j'ai pris la première, et en fait la première, donc c'est eux qui le donnent, hein, j'ai même pas à chercher, donc ils donnaient un lien, et c'était un lien vers un abstract en anglais d'un papier, en fait, qui expliquait, donc ça c'était soi-disant une étude qui prouvait que les ondes wifi, les antennes relais, en fait, pouvaient poser des problèmes aux gens. Et en fait c'était surtout un questionnaire de gens qui se prétendaient, donc c'était EMF sensitive, hein, c'est les gens qui sont sensibles aux champs électromagnétiques. Donc ce questionnaire disait, ben voilà, des gens qui se disent sensibles aux champs électromagnétiques ont rempli un questionnaire expliquant quels étaient les symptômes qu'ils ressentaient. Et c'est écrit noir sur blanc que ce questionnaire ne prouve en aucune façon un quelconque lien entre ça et effectivement les champs électromagnétiques. C'est juste les gens qui ressentent cette sensibilité, quels sont les symptômes qu'ils disent avoir, quoi. Et donc je comprends même pas que que des gens qui se prétendent vouloir protéger les gens, parce qu'en plus je pense que c'est pour ça qu'ils le font, présenter ce genre de choses qui en fait sont totalement à l'encontre de ce qu'ils disent, quoi.
Ouais, ça c'est un problème aussi maintenant beaucoup avec la rapidité de l'information sur Internet. Et alors souvent, les sceptiques, il y a remarque, enfin il y a quelqu'un qui fait une étude X, et puis alors il y a une communauté de presse un peu racoleur, et puis après il y a les journalistes qui reprennent l'étude, et parfois l'article de journal dit exactement l'inverse de l'étude. C'est absolument hallucinant.
Ouais, c'est comme la télépathie qui a enfin été mise en application récemment, là.
Ah ouais. Voilà, ça disait pas exactement la même chose, mais c'était vraiment racoleur à mort, quoi. Donc, ouais. C'était du clickbait, quoi. Donc, on va mettre télépathie dans le titre pour attirer le clic, quoi. Ça n'en est pas moins énervant, hein, mais bon.
C'est ça qui est problématique, en fait, c'est que les scientifiques passent un peu pour des charlots, quand même, dans ces cas-là, je trouve. Parce que finalement, enfin, quelle vision les gens peuvent avoir quand ils voient ce genre de choses, quoi.
Ouais, non, c'est clair. Ouais, non, je pense que c'est pour ça que c'est intéressant, justement, qu'il y ait des podcasts ou une blogosphère un peu qui essaye de passer derrière, ou en tout cas d'informer les gens. Le seul problème avec cette approche-là, c'est qu'on parle à un public un peu sélectif, quoi. Enfin, c'est les gens qui font l'effort d'écouter ça, et malheureusement, c'est pas...
Ils sont déjà convaincus d'une certaine manière.
C'est ça, quoi. Ils sont déjà prêts à faire un effort de ce côté-là, quoi. Ouais, c'est clair. Très bien, bah écoute, je crois qu'on a bien présenté ton balado. Et comme on en parlait avant le début de l'émission entre nous, donc pour les auditeurs, ce que je proposais, c'est que le prochain épisode que je mettrai dans le feed de mon balado, donc dans Scepticisme Scientifique, après cette interview, ce sera donc l'épisode que tu as consacré à Michel de Pracontal, puisque encore une fois, je trouvais que c'était un livre un peu, enfin qui a marqué le scepticisme en français. C'est vrai, comme je l'ai souvent cité sur mon balado, mais toi tu le présentes en long, en large et en diagonale, donc ça vaut vraiment la peine. Je pense que ça devrait intéresser vraiment mes auditeurs, quoi.
Écoute, merci.
Voilà, on reste en contact et puis je pense qu'on aura l'occasion de discuter encore, hein, si jamais il y a des sujets, encore une fois, qui te relient au sujet qui intéresse particulièrement les sceptiques, au sujet bizarre qui intéresse particulièrement les sceptiques. Et sinon, voilà, les gens peuvent chercher ton podcast. Je suppose qu'il est dans iTunes et tous les lieux habituels.
Ouais, lisez la science dans iTunes. Normalement, si on tape ça, on le trouve.
Oui, parce que parfois on me demande sur Android, si on a un Android, il faut passer généralement par Podcast Addict. Et là,
Ouais,
plus grand.
j'ai certains auditeurs qui utilisent Dogcatcher aussi.
Voilà, pour les gens qui ne sauraient pas, parce qu'il y a toujours des gens qui ne savent pas, qui me disent j'écoute le podcast via le blog. Je dis mais quelle horreur, quoi. Il faut passer par des agrégateurs. Le blog, il est juste là pour envoyer ça dans des agrégateurs comme iTunes, etc. Sinon, téléchargez ça automatiquement sur vos iPhones, les gars, ou quel sur l'appareil que vous utilisez, quoi. Super, écoute, à une prochaine alors, hein.
À bientôt, Jean-Michel.
Au revoir. Thank you.